L'intersaison NBA est toujours un moment particulier entre repos pour certains et stress pour les autres. Cette période nous offre à chaque fois son lot de surprises. Cette année encore, les franchises NBA nous auront concocté les plus beaux scénarios pour nous tenir en haleine pendant ces mois d'été. Plus encore, certains auront réellement appuyé sur le bouton pour faire changer leurs effectifs. Entre Russell Westbrook qui quitte les Wizards après seulement une saison pour rejoindre la mythique franchise des Lakers et surtout pour retrouver LeBron James, Anthony Davis et toute la vieille clique des pourpreyeurs, nous nous intéresserons également aux décisions surprenantes des Pelicans mais surtout à la très belle intersaison des Bulls qui pourrait devenir la darling de cette prochaine saison au sein de la Conférence Est. Vous écoutez le premier épisode de la troisième saison du Carton, votre podcast basket préféré. À toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de cette toute nouvelle saison du Carton. Nous sommes très heureux de vous retrouver après une intersaison haute en couleurs. Et pour ce premier épisode, nous vous avons concocté une recette au couteau. Et qui de mieux qu'avec moi autour de la table pour vous retrouver que mes chroniqueurs du soir qui se feront un malin plaisir à distiller leurs analyses sur les choix parfois surprenants des différentes franchises sur lesquelles nous allons nous pencher. À ma droite, il est très régulièrement détestable ou en tout cas détesté au sein de la rédaction. Mais nous savons que derrière son éternel second degré, il y a un petit cœur qui bat. Bienvenue, Teddy.
Salut les gars, je suis très très content pour cette nouvelle saison. Et c'est vrai, je suis détestable, mais il faut toujours un gars comme ça dans une équipe, un pitbull quoi. C'est moi, c'est tout, c'est moi en fait.
Ouais, je pense que tu te rapproches plus du Yorkshire. C'est petit, ça crie, mais ça mord.
Attends,
pas souvent.
Le Yorkshire, tu vas l'annoncer là, attention.
Plutôt le pitbull que le pitbull hein, finalement.
C'est ça. Et du coup, à ma gauche, il est mon coup de cœur basket avec une histoire qui dure depuis plusieurs années. Et si des gens disent que l'amour dure 3 ans, demandez à Udonis Aslem. Bienvenue, Benjamin.
Merci et quel plaisir de te retrouver pour cette nouvelle lune de noces que l'on renouvelle un peu toutes les semaines. Toujours un plaisir de parler langoureusement avec toi.
Oh, c'est tellement agréable de t'entendre parler après. Ouais, c'est ça, s'il te plaît, Teddy, t'as bien compris qu'il y avait deux salles, deux ambiances dans cette discussion. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour parler de cette intersaison. Et on attaque sans plus attendre avec le blockbuster trade de ces dernières semaines, avec l'arrivée fracassante de Russell Westbrook du côté des Lakers. Alors, bien que beaucoup d'encre ait déjà coulé autour de ce transfert, nous allons nous pencher sur l'intérêt des deux franchises qui ont effectué ce move. Donc, d'un côté, les Lakers et de l'autre côté, bien sûr, les Wizards. Alors, c'est un trade un peu particulier car il a concerné 5 équipes avec également Indiana, San Antonio et Brooklyn. Mais nous allons nous concentrer sur les deux premiers cités. Je t'ai dit, je vais me tourner vers toi pour commencer. J'imagine que tu es ravi de récupérer Russell Westbrook dans cette histoire, n'est-ce pas ?
Oui, je suis tout à fait ravi, surtout que ça correspond complètement au projet des Lakers du Win Now avec LeBron qui doit absolument gagner dans les deux prochaines années encore pour faire son histoire, avec un Anthony Davis aussi qui va être de retour d'une longue blessure, d'une longue saison. On a beaucoup espéré pour au final être pas mal déçu. Donc avoir dès le début de la free agency cette arrivée, ça a tout de suite plu à de nombreux fans des Lakers, évidemment pas aux nombreux fans de la ligue, et puis ça a permis encore une fois d'attirer de plein de nouveaux joueurs dans l'équipe, une équipe complètement changée. Je pense qu'on va en parler.
Toi de ton côté, Benjamin, est-ce que tu as un avis aussi dithyrambique ou est-ce que tu es un peu plus nuancé? Enfin, qu'est-ce que tu penses du choix des Lakers de récupérer Russell Westbrook?
Je suis assez partagé. Enfin, vous en doutez, j'ai rarement des avis très tranchés. En revanche, je pense qu'il y a du positif, du négatif. Le gros côté positif, c'est qu'il récupère une star, évidemment. Donc, c'est un big three qui est vraiment intéressant à suivre. On a rarement vu d'aussi grosses associations de stars dans l'histoire de la NBA. Et c'est aussi un créateur formidable, un mec qui distribue quand même 11,7 passes décisives par match la saison dernière. C'est pas un joueur que tu peux négliger dans un effectif dans lequel il manquait un créateur à côté de LeBron James. En revanche, le côté qui bloque pour moi, c'est ce côté ligne à 3 points, mais pareil, ça on va en parler. C'est pas forcément le shooter dont ils avaient besoin. Leur recrutement a du sens autour de Russell Westbrook. Mais j'ai du mal à croire que c'est le joueur qui va leur permettre de complètement se métamorphoser et de vraiment aller au bout des choses dès cette saison.
Alors justement, tu en parlais très bien autour de l'alchimie qui va devoir être créée. Alors c'est un effectif qui est assez fourni avec des stars, en tout cas des Hall of Famers, des joueurs qui vont être Hall of Famers avec notamment l'arrivée de Carmelo Anthony. Pour toi, Teddy, en tant que spécialiste de la franchise, comment est-ce que tu vois l'effectif cliquer?
En voyant celui de l'année dernière, je vais me tenir le même discours que j'avais eu il y a un an, c'est-à-dire je suis trop content, il y a des stars de partout, des gars qui sont capables d'être starters dans leur franchise et qui vont là fournir sur le banc, enfin en sortie de banc. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus nuancé parce qu'on a vu que l'année dernière ça n'avait pas bien fité. Pour autant, je vais avoir moins de joie, mais pour autant, on a quand même un effectif qui, je pense, a tiré les leçons de l'année dernière, où l'année dernière, c'était clairement une saison blanche au niveau du résultat, même s'il ne faut pas oublier ces blessures qui justement, inquiètent hein, pour les plus vétérans de la franchise. Mais je le trouve plutôt bien, des gars, encore une fois, revanchards, qui n'ont toujours pas leur bague et qui veulent chercher quelque chose. On a un tout petit peu de jeunesse avec Kendrick Nunn, mais voilà, ça va nous faire du bien.
C'est vraiment ça que t'appelles la jeunesse pour toi.
Horton Tucker, mais là c'est vraiment de la toute petite jeunesse, hein, mais c'est bien aussi parce que je pense que on aura besoin de ces gars-là qui ont déjà en deux saisons NBA prouvé qu'ils avaient la taille pour être, enfin qui sont NBA ready, qui sont capables de faire de belles performances. Par contre, ouais, comme t'as dit, on a du vieux briscard, on a aussi de très bons retours avec Rondo et Dwight. Je vais finir par ça, je suis plutôt content parce qu'on sait que ces deux-là, ça avait très bien fité pour 2020 et le championnat. Donc c'est aussi ces arrivées-là qui, à la fin de la période des transferts, m'ont plutôt ravi.
Justement, t'en parlais très bien avec les blessures qu'il y a eu et la course à la bague. Russell, forcément, il déroge pas à la règle. Il arrive, on va dire... Il est dans la mode actuelle de la NBA puisqu'il rejoint l'une des nombreuses armadas de la ligue. Surtout, il rejoint un gros marché. Et on sait notamment que les Lakers, c'est la moyenne d'âge la plus vieille de la ligue avec 30,8 ans. Et juste une petite anecdote sympa, il n'y a que deux équipes en fait qui ont réussi à gagner un titre en ayant une moyenne d'âge plus élevée. Il y a eu les Bulls de 97-98 avec 32,09  ans de moyenne, année de moyenne, pardon, les Mavericks de 2010-2011 avec 31,6 années, et ils sont à peu près au niveau des Celtics de 68-69 puisque les Celtics étaient à 30,7 années. Pour toi, Benjamin, est-ce que tu penses réellement que c'est l'épine dans le pied, on va dire, cette moyenne d'âge du côté des Lakers, même si bien sûr il y a des joueurs que je disais Hall of Fameables?
En fait, d'un côté, c'est un avantage d'avoir de l'expérience parce que c'est des joueurs qui, pour la plupart, connaissent les playoffs, qui connaissent la ligue, qui vont savoir s'adapter les uns aux autres, et ils n'auront pas de caprices de jeunesse, avec plein de guillemets, comme Dennis Schroeder par exemple l'année dernière. En revanche, là où ça a posé problème, c'est que ça nous inquiétait pas mal de voir l'état physique de LeBron James et Anthony Davis qui se sont blessés l'année dernière. Et là, en l'occurrence, on a tout un effectif construit dans lequel il y a beaucoup de gens qui sont potentiellement des sujets à blessure. Alors, ils sont restés en forme pour la plupart des saisons précédentes, mais quand on reprend les Carmelo Anthony, les Rajon Rondo, les Dwight Howard, en fait, c'est des joueurs qui commencent à vieillir et qui ne sont pas à l'abri en fait d'une blessure qui pourrait peut-être foutre en l'air à la fin de leur carrière. Alors le problème, c'est que si jamais on a une blessure d'AD et que derrière son remplaçant se casse aussi, en fait ça va être un peu compliqué. Et pareil, est-ce qu'on peut leur demander de jouer plus de minutes en cas de blessure vu leur âge? Alors c'est pas des papys, 30 ans ça reste un âge plutôt respectable, et la plupart des joueurs sont quand même autour de cette zone là du coup, mais reste à voir s'ils peuvent tenir le rythme sur 82 matchs et surtout aller ensuite derrière, parce qu'on sait que le rythme est très éprouvant et que après la saison régulière, beaucoup d'équipes arrivent fatiguées, et donc sûrement à plus forte raison pour les vétérans.
Forcément, ça va être quelque chose qui va être regardé du côté des Lakers. De leur côté, les Wizards auront obtenu Spencer Dinwiddie, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell, également Kyle Kuzma dans l'histoire. Là encore, on a beaucoup de choses à dire autour de cette compensation, car ce sont des joueurs qui arrivent avec une revanche à prendre dans la ligue au sein. Ben, ils arrivent au sein d'une franchise où il y a une place à faire. En tout cas, il y a sa place à faire. Pour toi, Benjamin, je te laisse la balle. C'est quoi ton avis sur les compensations qu'ont obtenues les Wizards? Est-ce qu'on est sur un win-win ou est-ce qu'on est clairement dans un projet de reconstruction?
En fait, j'ai l'impression, enfin, j'ai du mal à comprendre là où vont les Wizards avec ce transfert. En fait, ça reste logique parce que on a vu que Westbrook, Beal, c'était pas un duo qui pouvait porter l'équipe au point de la transformer. C'est-à-dire que malgré l'arrivée de Westbrook, l'équipe est quand même restée relativement faible. Donc, ils ont probablement raison de se séparer de Westbrook et de mettre un terme à ça. En revanche, en fait, l'effectif qu'ils ont construit, personnellement, ne me convainc pas du tout. Alors, oui, tout ne passe pas par les stars en NBA, mais il y a quand même un certain manque de star power. On est loin de l'époque où Washington avait un John Wall très en forme et un Bradley Beal florissant. Et maintenant, peut-être qu'ils arriveront à faire un collectif intéressant avec toutes ces pièces qu'ils ont ajoutées. Il y a de jolies pièces, il y a des choses à faire. Ils peuvent peut-être aller en playoff cette année, mais ils pourront pas rêver mieux que d'une place en playoff, peut-être au play-in. Et c'est dommage en fait de continuer à jouer pour le milieu de tableau. Je trouve ça un petit peu sans intérêt.
Bah, je vais rebondir sur ce que tu as dit justement sur où ils vont avec ça. Je trouve que les Wizards ont, en tout cas la franchise a pris conscience que Bradley Beal allait sûrement s'en aller à la fin de saison. Il, dans sa dernière année de contrat, l'année prochaine, il aura une player option. Donc il y a déjà... Ils sont dans un entre-deux où ils préparent déjà l'avenir. Enfin, en tout cas, c'est ce que je lis un petit peu quand je vois le collectif qui se met en place. Après, tu parles aussi de stars où il n'y a pas forcément de stars à part Bradley Beal, même si on voit clairement que l'effectif qui est construit autour de lui ne correspond pas, enfin ne permettra pas un super résultat, quoi qu'on peut. On peut toujours être surpris. Mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris énormément de joueurs à potentiel, on va dire, et que peut-être qu'autour de cela, ils vont peut-être réussir à en former un, deux, qui vont être capables de porter l'équipe pendant un temps, jusqu'à un moment retrouver vraiment une star dans leur collectif, un All-Star, ce qu'ils vont sûrement perdre l'année prochaine si Bradley Beal s'en va. Mais oui, ils sont dans une transition, il y a un nouveau coach aussi. Je ne vais pas dire que je crois au projet ou je crois à une place en play-off, mais en tout cas, je pense que ça va être l'occasion pour pas mal de gars de se révéler un peu plus. Je prends l'exemple de beaucoup de joueurs des Lakers, de se révéler un peu plus et puis de peut-être prendre le lead offensif de l'équipe.
En tout cas, on verra très rapidement comment les Wizards vont se comporter au sein de la Ligue. Alors, même si les attentes sont vraiment pas grandes pour eux, on prend maintenant la direction de la Nouvelle-Orléans avec le choix des Pelicans de se séparer de Lonzo Ball dans un sign and trade pour l'envoyer vers les Bulls contre Garrett Temple, Thomas Satoransky et un second tour de draft de 2024. Alors, sur le papier... Alors clairement l'avantage est du côté des Pelicans, avec très peu de bonnes contreparties, surtout que Lonzo semblait avoir quelque chose à faire encore au sein de l'effectif. On sait qu'ils ont le besoin d'entourer Zion, en tout cas je pense qu'il pourrait nous faire une Anthony Davis, c'est-à-dire au bout d'un moment partir et ne plus être, on va dire, le joueur, le franchise player que pourrait attendre la Nouvelle-Orléans. Teddy, qu'est-ce que tu penses de cette décision de faire partir Lonzo Ball pour récupérer des joueurs qui ne sont pas vraiment des assets très intéressants?
Mais on n'est encore une fois pas dans la franchise, mais peut-être que ça n'a jamais bien fité avec entre Lonzo et certains cadres de l'équipe. Donc, y avait ce souhait de Lonzo de partir de la Nouvelle-Orléans où finalement il a su briller à quelques instants, mais il n'a jamais, sur la régularité, été bien. Hein. Donc moi je suis plutôt content de choix de Lonzo de partir à Chicago. En tout cas, c'est clair que pour les Pelicans, maintenant faut regarder ce qui reste dans la franchise. Donc clairement c'est sur Zion et Brandon Ingram qu'il faut encore une fois se cibler. Et j'ai juste envie de dire, avant de passer la main à Ben, que pour moi là ça va être soit l'année, effectivement comme tu as dit, c'est une année test, hein, ça peut être l'année du déclin, l'année où en fin d'année, fin de saison, Zion peut clairement faire entendre qu'il ne veut plus rester, et pareil pour Brandon Ingram, ou ça peut être justement ces petites nouveautés. Il me semble qu'il y a Devante Graham aussi qui a rejoint la franchise, et d'accrocher enfin les playoffs, parce qu'avec cette équipe, pour le moment, il n'y a pas eu d'histoire en playoffs. Ça fait que 2 ans que Zion est là, mais c'est vrai qu'il n'y a même pas ce sentiment de pouvoir jouer le play-in à un moment ou à un autre, et ça c'est plutôt dérangeant quand on connaît les attentes autour des deux All-Stars.
Pour toi, Benjamin, est-ce que tu es du même avis? Est-ce que pour toi c'est un peu un reculer pour mieux sauter?
En fait, moi j'ai un peu de mal à croire à cette histoire de Zion qui partirait prochainement dans les prochaines années, alors qu'il est encore lié à la franchise pendant un sacré paquet d'années. Ça, c'est une autre problématique et je pense qu'on perdra du temps de l'aborder, cette question de jeu de pouvoir entre les joueurs et les franchises. Mais je pense que les Pelicans se donnent le temps. En fait, la différence fondamentale entre Lonzo Ball et Devonte Graham, c'est une question financière. Parce que Lonzo Ball, c'est 80 millions de dollars sur 4 ans, tandis que Devonte Graham, c'est 47 millions de dollars sur 4 ans. En fait, moi, dans cette intersaison, je vois la volonté des Pelicans de garder une certaine flexibilité, avoir des contrats qui sont plus simples à transférer, avoir des joueurs qui sont peut-être free agent moins longtemps, et surtout de pouvoir se dire Zion Williamson est un joueur avec lequel d'autres joueurs veulent jouer, on pourra miser à l'avenir sur les free agency, mais notre moment n'est pas encore venu. Et pour moi, en fait, le fait de virer Lonzo Ball de ce projet, c'est pas de dire ça fonctionne pas, ça clique pas, il nous faut quelqu'un d'autre, surtout de dire on n'est pas prêt à te donner le contrat que tu veux ici, donc on va te laisser le prendre ailleurs. Et je pense que c'est assez logique en fait côté Pelican de se dire on va prendre le temps de faire quelque chose de bien plutôt que de rush et de finir avec un projet un peu comme Cleveland et LeBron James dans lequel on a toujours voulu ajouter immédiatement du talent et en fait on n'a jamais réussi à vraiment bien entourer LeBron, ce qui a fini par aboutir sur The Decision en 2010. Et du coup là ce qui se passe c'est qu'ils prennent plus de temps et du coup ils encaissent actuellement, oui, parce que à mon avis leur effectif est moins bon qu'avec Lonzo Ball, mais peut-être pour un meilleur avenir.
On prend, enfin forcément ça va être quelque chose qui va être à regarder, mais c'est vrai que moi je suis un peu plus nuancé sur cette question, dans le sens où je pense que Zion s'attend vraiment à gagner maintenant. Il y a tellement eu de hype autour de lui ces dernières années que j'ai l'impression, en fait, depuis qu'il est arrivé au Pels, que il est devenu peut-être un joueur, pas lambda bien sûr, parce que ça reste un joueur exceptionnel, mais en tout cas qui est moins regardé. Donc il est dans un petit marché, donc potentiellement il lui faudrait du monde. En tout cas, on va regarder comment ça va se passer cette saison pour les Pels. On prend maintenant la direction des Bulls, cette saison où Chicago qui a tout modifié pour mieux performer. Alors ils avaient déjà réussi à ramener Nikola Vucevic dans leur rang, mais ils récupèrent en plus cette intersaison des joueurs qui pourront potentiellement leur faire passer un cap. On commence bien entendu, voilà, on en a parlé, par Lonzo Ball. Le meneur arrive forcément avec un rôle de starter du poste 1, car l'aventure avec Kobe White, ben, ça n'a pas pour l'instant porté ses fruits. Et on note bien sûr l'arrivée de DeMar DeRozan en provenance des Spurs, ou également Derrick Jones ou encore Alex Caruso. Benjamin, est-ce que pour toi, Chicago n'a pas réalisé l'une des meilleures intersaisons de cette année ?
Si, je pense que clairement, ils sont candidats pour la meilleure intersaison de cette saison. Alors, il y a d'autres équipes, hein, il y a le Heat, il y a les Lakers, on en a déjà parlé. Mais ils ont vraiment fait une super intersaison. Ça passe par la signature de Lonzo Ball, qui est un super gestionnaire, par celle de DeMar DeRozan. Tu as mentionné Alex Caruso, effectivement, qui va être un super backup, je pense, l'année prochaine. Ils sont vraiment renforcés et ils ont tapé des points sur la table pour dire l'année prochaine, on sera en playoff à l'Est et l'année prochaine, on peut viser mieux que le top 8. En l'occurrence, je pense que Lonzo, c'est typiquement le profil qu'on aime dans ce genre de configuration. C'est-à-dire qu'il y a un arrière qui a besoin de beaucoup toucher le ballon. DeMar DeRozan, on ne connaît pas encore tout à fait son rôle, mais il risque aussi de devoir beaucoup de prendre de ticket shoot. Nikola Vucevic, c'est un pivot très offensif et on garde toujours une dynamique en fait à Chicago qui pour moi tend vers l'attaque. Et Lonzo Ball, dans tout ça, c'est un chef d'orchestre, c'est un organisateur parfait qui a un spécialiste des passes décisives, qui n'est finalement pas un si mauvais tireur. Enfin, il maîtrise les basiques avec une spécialité à la passe et je pense que c'est ce dont ils ont besoin pour gérer leur nouvel effectif.
Justement, tu en as très bien parlé du poste d'arrière avec Zach LaVine. On est un peu dans la même situation que pouvait avoir Zion. Je pense que dans une NBA où les joueurs ne sont pas trop ancrés dans leur franchise, où ils ont envie d'avoir une bague, où ils ont envie d'avoir la fame, potentiellement Zach LaVine pourrait un peu commencer à se lasser. Là, c'est vraiment un choix de la part du front office de l'entourer, de lui donner la possibilité de briller. Pour toi, Teddy, et pour conclure du coup, est-ce que tu penses pas que c'était les bons moves à faire pour continuer à avancer avec le projet Zach LaVine?
Ah si, c'est super, c'est vraiment des très bons mouvements qu'il y a eu. Déjà depuis l'arrivée de Vucevic, je trouvais ça plutôt intelligent, mais on restait un petit peu sur notre faim et c'était que d'une partie du terrain offensif et on attendait autre chose. On l'a eu cet été avec pas mal de belles arrivées, de gars aussi qui veulent en découdre, qui ont beaucoup de choses à prouver. Pour moi aussi, j'ai mis ces playoffs obligatoires aussi par rapport aux autres franchises de l'Est. on en a un petit peu parlé avec Washington par exemple, où pour moi là c'est avec cette intersaison c'est playoff obligatoire, mais en tout cas la hype est présente et j'espère que ça va aller jusqu'au bout, enfin jusqu'à ce retour en post-season. Il y a de quoi faire, clairement, hein, je vais pas dire devant qui je les mets, hein, mais c'est pas le propos, mais en tout cas je suis très content de cette intersaison des Bulls qui enfin peut-être je vais recommencer à les regarder jouer.
En tout cas on espère, c'est vrai que ça va être une équipe vraiment intéressante la saison prochaine. Il y a vraiment des assets qui ont été ajoutés de manière très intelligente. Forcément il y a, comme tu le disais Benjamin, il y a plein d'équipes qui ont fait une belle intersaison. Tu en as parlé, Miami, forcément, c'est quelque chose qui va être intéressant à regarder. Mais en tout cas, les Bulls, je trouve, ont fait quelque chose de très intéressant. Ils ont réussi à entourer Zach LaVine. En tout cas, on les a plutôt bien placés dans nos pronostics que vous pourrez très rapidement retrouver sur le site de l'analyste.fr. Le buzzer du premier quart-temps retentit. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette première partie de notre toute nouvelle saison. Je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux de l'analyste pour nous donner votre avis sur cette intersaison avec les équipes que nous avons abordées. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour le deuxième quart-temps. Bonne journée à vous. Salut !